trois représentations cette semaine à l'Auditorium de l'Opéra de Dijon des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, l'Orchestre Dijon-Bourgogne, les chœurs de l'Opéra de Dijon, quatre solistes, quelques acrobates. À la direction musicale, ce sera vous, Pierre Dumousseau. C'est la première fois que vous dirigez l'Orchestre Dijonnais.
Absolument, bonjour et je m'en réjouis.
Comment on aborde un orchestre qu'on ne connaît pas ?
D'abord en y étant préparé, c'est-à-dire en s'appliquant un degré d'exigence maximal à soi-même dans la préparation de la partition, dans la connaissance de la partition, dans la connaissance du répertoire, du style, de la place de l'œuvre dans l'histoire de la musique, ça c'est fondamental. Et puis ensuite, ça demande bien sûr une ouverture parce qu'on ne peut pas travailler avec tous les orchestres de la même manière, il faut s'adapter à la psyché des individus, mais aussi à l'histoire d'un collectif, et c'est à ça qu'on s'emploie dès le moment où on monte sur le podium.
Au-delà de la personnalité de chaque instrumentiste, il y a une personnalité propre à l'ensemble de l'orchestre ?
Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on sent assez clairement et assez tôt dans le processus de répétition. Tous les orchestres n'ont pas la même histoire, tous les orchestres n'ont pas les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, la même manière de fonctionner, et ça crée des identités assez fortes et assez distinctes d'un ensemble à un autre, en effet.
Vous découvrez l'orchestre, mais vous ne découvrez pas les pêcheurs de perles que vous avez déjà eu l'occasion de diriger ailleurs.
Et pourtant, je les découvre encore et je continue bien sûr d'y trouver des merveilles étonnantes dans une partition d'une telle jeunesse, puisque Bizet a composé ça à seulement 24 ans, ce qui est une maturité relative pour lui, qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 37 ans, et ce qui est sans doute l'événement que je déplore le plus personnellement dans l'histoire de la musique romantique française. Mais donc oui, c'est une partition... d'une audace et d'une inventivité assez folle.
Musique romantique française, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le domaine, on va dire, privilégié de Pierre Dumousseau ?
J'espère ne pas avoir de domaine privilégié. C'est un répertoire que j'ai beaucoup arpenté et je continue d'arpenter, notamment parce que je trouve que c'est ce qui me permet d'accéder à une forme de légitimité au-delà de nos frontières. Et je suis toujours heureux, moi, d'aller défendre ailleurs que dans notre pays la manière dont non seulement on parle, mais surtout on chante notre langue, qui est une source de fascination pour beaucoup d'autres cultures. Et puis, il y a des compagnonnages avec les chanteurs de ma génération en France, les instrumentistes aussi, et quelques institutions, au rang desquelles, bien sûr, le Palazzetto Bruzane, qui est un acteur incontournable du milieu désormais, en particulier dans ce répertoire romantique français.
Si je vous ai bien lu, Pierre Dumousseau, vous n'êtes pas de ces chefs qui disent « la musique d'abord, la mise en scène, on verra après ».
C'est-à-dire que c'est aussi un postulat assez français, par opposition aux Italiens, qui ont donc aux lèvres ce « prima la musica e dopo le parole », qui peut être tout à fait approprié à certains types, à certains genres de musique. Mais quant à moi, je ressens une filiation assez claire avec Berlioz et donc avec Gluck, son propre père, pour qui l'opéra n'était rien d'autre que de la dramaturgie du théâtre mise en musique. Donc c'est ma manière d'interpréter, c'est ma manière de chercher à mettre du sens entre les notes dans la partition. C'est toujours d'illustrer le propos dramaturgique, pas forcément au mot sur le mot. Des fois, il s'agit évidemment de planter des atmosphères qui sont contradictoires avec ce que prétendent les personnages sur scène ou avec ce qu'affiche la scénographie. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le théâtre musical, c'est de faire du théâtre à l'intérieur de la musique.
Et puis, il y a celui ou celle qui met en scène.
Absolument. Mirabelle Ordinaire, dont c'est, je crois, la première vraie grande production avec orchestre, chœur et soliste dans un opéra en France. Elle est rompue à tous les corps de métier de l'opéra puisqu'elle fait partie du pool de metteurs en scène qui reprennent les productions du Metropolitan Opera de New York. Elle a un grand métier, elle a beaucoup de passion, beaucoup d'inventivité. Et c'est un théâtre que j'ai hâte de voir dans sa forme finale et aboutie, parce que j'ai beaucoup aimé le processus de travail qu'on a eu ensemble. Et très en amont, je dois dire, on a commencé à discuter ensemble il y a plus d'un an, sans doute même deux, à vrai dire, à commencer à échanger sur la partition, ce qu'on voulait en faire, l'idée qu'elle en avait, et comment est-ce qu'on allait aborder le travail ensemble avec les chanteurs que nous avons choisis ensemble. L'Opéra de Dijon nous a permis de faire ça, d'avoir une discussion très ouverte avec son directeur de distribution. On est arrivé le premier jour, on s'est rencontrés pour la première fois, comme si on avait déjà travaillé ensemble depuis longtemps.
Pierre Dumoussieu, vous l'avez dit, Les Pêcheurs de Perles, c'est une œuvre de jeunesse pour Georges Bizet. C'est pas Carmen qui viendra une dizaine d'années plus tard. Est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que c'est pas l'un des opéras les plus considérés?
Non, à vrai dire, moi je pense plutôt que le déficit de notoriété des Pêcheurs de Perles par rapport à celui de Carmen est d'abord dû à une forme de condescendance qu'on a parfois, à juste raison, à l'égard de ce livret, qui pourtant a été écrit par des auteurs d'expérience et de renom, que sont Cormon et Carré.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'au fond, Bizet n'a pas été pris au sérieux par les librettistes?
C'est-à-dire, sans doute qu'il ne l'a pas été assez, mais en même temps, c'était un très jeune compositeur que assez peu de monde connaissait encore sur les scènes françaises et à fortiori parisiennes. Simplement, cette commande répond d'une impulsion du ministère de la Culture de l'époque, c'est-à-dire le ministère des Beaux-Arts, qui avait proposé au théâtre lyrique que dirigeait Léon Carvalho de lui octroyer une subvention à condition qu'il mette en scène un premier opéra, un premier ouvrage lyrique d'un jeune lauréat du prix de Rome, ce qu'était Georges Bizet, qui est donc très jeune encore, et qui a tout de suite mis entre parenthèses tous les projets qu'il avait à cette période-là, et qui a recyclé une partie de sa musique dans ce nouveau projet. Et donc, malheureusement, effectivement, on peut considérer que les librettistes ne l'ont pas totalement pris au sérieux, mais pour autant, on ressent dans leur écriture et dans leur maniement de l'argument que ce sont des librettistes d'expérience. Après, c'est une œuvre qui forcément a un peu vieilli de par sa nature, c'est-à-dire que elle répond au code des exigences de cette espèce d'exotisme du milieu de recherche de l'exotisme, en tout cas du milieu du 19e siècle, qui est de la même trempe d'ailleurs que celui de Carmen. Hein. On sait que Bizet n'a jamais mis les pieds en Espagne. Évidemment, il n'est pas davantage allé à Ceylan au Sri Lanka. Donc c'est un exotisme qui est fantasmé depuis le 9e arrondissement de Paris.
Un exotisme que l'on pourra découvrir dans la mise en scène tout de même. On s'en inspire.
En partie seulement, pour certains des personnages seulement, puisque sans rien vouloir dévoiler, Mirabelle Ordinaire a eu l'idée de donner au rôle de Zurga en particulier une profondeur et une importance particulière dans ce spectacle qui n'est pas tout à fait une transposition littérale dans le lieu pour lequel a été écrit Les Pêcheurs de Perles, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance parce qu'à l'origine c'est une action qui avait été envisagée au Mexique avant d'être transportée donc au Sri Lanka. Donc j'allais dire, après tout, pourquoi ne pas essayer une troisième destination maintenant? Oh.
On raconte que l'origine de l'histoire, en fond, ce serait la perception de Bizet de la construction en cours de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, en 1863.
C'est le projet de Mirabel Ordinaire, effectivement, avec des résonances poétiques et qui permet de créer des parallèles entre ce que pouvait être la vie à Paris à cette époque, et en particulier aux alentours du Palais Garnier, qui était en cours de construction et que Bizet voyait presque de sa fenêtre, puisqu'il vivait à quelques rues seulement. C'est le point de départ d'une rêverie de plus sur ce livret des pêcheurs de perles, qui permet, encore une fois, de ne pas en avoir une lecture trop au premier degré et de se concentrer sur ce trio amoureux qui, s'il n'est pas inédit, parce qu'on connaît évidemment celui de la Traviata, celui de Norma, et dont il s'inspire assez franchement, et qui pour autant est assez particulier.
S'inspirer d'eux, justement, c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement été bien vu en son temps.
Oui, effectivement, de son vivant, ce reproche est souvent fait à Bizet de trop faire référence à ses maîtres, de trop composer comme ceux qui l'ont inspiré, ses professeurs, ses amis. On pense bien sûr à Goudeau, on pense à Berlioz, mais aussi c'est un jeune musicien français qui ne peut pas ignorer les influences qui arrivent outre-Rhin, et notamment l'usage du chromatisme d'un certain Wagner. Et là-dedans, la critique conservatrice a toujours la dent un peu dure, effectivement, ne fait pas l'effort, on va dire, de rechercher ce que pourrait être le style de Bizet en s'arrêtant à lui trouver soit des références qu'on juge passéistes, soit, disons, un avant-gardisme d'origine plutôt prussienne et qui serait évidemment vu sous un angle géopolitique défavorable à Paris à cette époque.
Il y a quelques semaines, à l'occasion de la dernière production en date de l'Opéra de Dijon, donc c'était la Traviata, Verdi, j'avais ce genre de conversation avec Deborah Wallmann, qui dirigeait l'orchestre Dijon-Bourgogne, comme vous allez le faire pour les Pêcheurs de Perles. Et on parlait des moments attendus, des grands airs, des choses où on a le sentiment que le public vous attend au coin de la mesure. Est-ce qu'il y a des moments comme ça dans les Pêcheurs de Perles ?
Bien sûr, il y a évidemment l'emblématique romance de Nadir, qui nous a fait nous méprendre sur ce rôle d'ailleurs, parce que c'est une pièce assez éthérée, qui reste figée dans un seul petit ambitus plutôt léger du ténor, et donc on a pensé pendant longtemps que Nadir devait être chanté par un ténor léger, ce qui n'est absolument pas le cas quand on considère l'orchestration et les moyens très riches auxquels s'adonne Bizet dans cette partition. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être moins populaires, mais qui pourtant sont de grands chefs-d'œuvre. Je pense au duo entre Nadir et Zurga au premier acte, au duo entre Leïla et Nadir au deuxième, et il y a un autre duo encore entre Zurga et Leïla. Ce sont ces trois duos qui rythment chacun des actes de l'œuvre et qui font résonner de trois manières différentes ce triangle amoureux.
Yeah. une œuvre que vous allez diriger dans quelle version, alors, puisque finalement, on n'a pas l'original?
Alors, c'est-à-dire qu'on a l'original, mais ce qu'on ne peut pas reconstituer aujourd'hui, c'est l'intégralité de l'orchestration de Georges Bizet, puisqu'après sa mort, Léon Carvalho, qui deviendra plus tard le directeur de l'Opéra Comique, va participer au rayonnement de l'œuvre des Pêcheurs de Perles en France et à l'étranger, notamment en Italie, sauf qu'il y participe toujours un peu à sa manière, comme il l'a fait avec tous les compositeurs de son vivant, c'est-à-dire qu'il taille, qu'il coupe, qu'il réarrange, qu'il rajoute, faut le dire, plutôt sans vergogne. Et le problème, c'est que cette version inventée et réarrangée par Léon Carvalho va subsister pendant assez longtemps, de telle sorte que quand on va chercher à remonter à la source des Pêcheurs de Perles, on va se rendre compte que le manuscrit de Georges Bizet est perdu. Donc on est capable aujourd'hui de jouer l'orchestration originale de Georges Bizet pour tout ce qui était dans cette seconde version de Léon Carvalho, qui date de la toute fin du 19e siècle, on parle de 1895-1896. Mais pour le reste, les passages que Léon Carvalho avait décidé de couper, eh bien malheureusement, on ne sait pas remonter à l'orchestration de la main de Georges Bizet. Donc aujourd'hui, personne ne peut se targuer de jouer Les Pêcheurs de Perles, hélas.
Trois représentations dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon, ce mercredi, vendredi à 20h, dimanche 15h. Coproduction entre l'Opéra de Dijon et l'Opéra de Toulon. Ça veut dire que les représentations continuent à Toulon, mais généralement avec d'autres interprètes.
Et je n'espère pas qu'à Toulon, d'ailleurs, c'est un spectacle qui, à mon avis, mérite de voyager et d'être vu.